On aperçoit la main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Oui, bonjour à tous.
Avec le micro s'il vous plaît. Vous nous présentez ce matin des plantes à fleurs, les ajoncs. Vous dites que c'est une plante connue de tous.
Oh, je pense, c'est un arbuste qui se plaît presque partout, mais qui préfère toutefois les terres acides pour fleurir abondamment. Il est aussi et surtout l'un des très rares arbustes à fleurir copieusement en hiver. Si l'ajonc supporte le gel, il a toutefois besoin de soleil pour se reproduire, et c'est ce qui explique pourquoi ils sont assez rares dans les sous-bois. Comme le genêt avec qui on le confond parfois, il produit des gousses qui contiennent les graines, des graines qui, à maturité, sont propulsées à distance pour coloniser les terres avoisinantes. Installez-vous près d'un genêt ou d'un ajonc quand ils se reproduisent.
Enfin, et ça bouge.
On entend vraiment les graines être propulsées. C'est assez amusant.
Alors, oui.
Si elles sont capables de coloniser ainsi les terres, eh bien, c'est l'une des raisons qui explique que, dans les Landes, par exemple, on peut les voir en quantité très nombreuse.
Vous dites que le genêt et l'ajonc peuvent se confondre. Comment est-ce qu'on peut les distinguer?
Mais il suffit de les cueillir, non? Avec les uns,
voilà,
on se pique, avec les autres, non.
Une technique très simple. Il suffit simplement de vous jeter dans le branchage.
Oui, c'est ça.
Si vous en sortez indemne,
c'est
le genêt.
Déjeuner.
Si vous sortez en lambeaux sanguinolents, c'est un ajonc.
Une légende prétend que l'ajonc est une création du diable.
Et oui, ce qui, au demeurant, offre quelques avantages. Un bouquet d'ajonc, par exemple, est idéal pour repousser les sorcières. Outre-Manche, au Pays de Galles, il est bon d'entourer la propriété d'une haie d'ajonc. En faisant ainsi, les forces maléfiques ne viendront pas frapper à votre porte.
Mais ce qui est valable chez nos voisins ne l'est pas forcément chez nous.
En Bretagne, il ne faut surtout pas faire des bouquets avec des ajoncs et encore moins en disposer chez vous, ça porte malheur. Il est même conseillé, quand vous vous promenez et que dans un moment d'inattention vous en touchez, de tousser immédiatement. C'est la meilleure façon, paraît-il, de ne pas réveiller le diable.
Et pourquoi le démon s'intéresse-t-il autant à cette plante?
Il y a de cela très très longtemps, presque aux origines, tous les Bretons qui mouraient allaient au paradis. Le diable, on s'en doute, est en colère. Il a donc passé un accord avec Dieu, à savoir que l'âme des morts n'irait en enfer que quand il n'y aurait plus de fleurs dans les Landes. Et Dieu, pour se moquer du diable, a décidé depuis que les ajoncs fleuriraient pratiquement tout au long de l'année.
Alain Baraton, à présent vos réponses et vos conseils aux questions des auditeurs de France Inter. Une question d'un auditeur de Namur. On nous écoute en Belgique et on salue les Belges. Nous avons un énorme Strelitzia en pot, nous dit cet auditeur belge, et nous nous demandons s'il est possible de le séparer en deux.
Namur, d'ailleurs, où je serai, je crois, jeudi.
Tiens donc.
Oui, tout à fait.
Bah, faites votre
qu'est-ce que vous allez faire là-bas?
Je crois que j'ai rencontré des gens, on fait une petite conférence, je ne me rappelle plus du tout à quel endroit.
C'est bien préparé, ça.
Pas quel endroit.
Mais le thème de la conférence?
C'est certainement sur le jardin.
Ah bah oui, j'imagine.
À moins que je ne sois sur Versailles.
Bon, vous savez qu'on est à l'antenne, là.
Alors, oui,
alors répondez à cet auditeur.
Alors, le Strelitzia, on l'appelle aussi fleur perroquet. Vous savez, ce sont ces grandes fleurs qui produisent de couleurs généralement orange. Il existe des rouges qui sont produits sur de grandes tiges très épaisses et qui ont de grandes feuilles. Oui, il est possible de pratiquer la division de touffes concernant les Strelitzia. Il suffit simplement d'extraire la plante de la terre, de donner un coup de bêche dans la souche en quelque sorte, et comment dire, d'en faire pratiquement autant que d'éclats.
Une question de Gaëlle. Elle vous dit que depuis 5 ans, elle coupe en janvier, c'est-à-dire en ce moment, enfin pratiquement, les branches d'un mûrier platane vieux de 30 ans. Il reste des moignons aujourd'hui sur l'arbre. Faut-il les couper?
Ah, les moignons, eh ben, ce sont les extrémités de ces branches coupées qui, à force de cicatriser, effectivement, produisent des excroissances, des boules, des nœuds. Alors, couper, que se passe-t-il? Eh bien, vous coupez la possibilité pour la plante de produire une jeune tige qui permettra le démarrage d'une nouvelle branche, et vous risquez malheureusement de créer un chicot de bois qui va se dégrader, pourrir et peut-être même contaminer l'ensemble du bois. Donc, je rappelle que pour éviter les problèmes sur la taille des arbres lorsque la taille est régulière, on doit le faire à la même période, sur des sections les plus petites possibles. Et donc non, pour répondre concrètement, on ne coupe pas les moignons, même si ce n'est pas très joli.
Une question de Véronique, une question en deux temps. D'abord, deux magnolias. Les magnolias ont 100 ans et ces belles plantes masquent la fenêtre. Alors, elle les a taillées il y a 10 ans. Première question à propos des magnolias, comment contenir leur croissance et est-ce recommandé là encore de les tailler?
En taillant uniquement, je dis bien uniquement, l'extrémité des branches pour éviter qu'ils qu'ils ne prennent trop d'emprise et se rappeler que le magnolia n'a surtout pas besoin de taille pour être beau. Mieux, il déteste être taillé.
Alors, deuxième question de Véronique à propos de ces magnolias vieux de 100 ans. La mairie lui conseille d'abattre cet arbre, ces fleurs, ces arbres plutôt, car il risque d'endommager les fondations de la maison. Qu'en pensez-vous, Alain ?
Que la mairie est incompétente, il est bien évident qu'au bout de 100 ans, le magnolia a déjà produit ses racines. Ce sont des plantes 100 ans pour un magnolia, ce n'est pas rien. Donc il est évident que si la plante avait quelques velléités, expansionnistes avec les racines, ça se serait depuis longtemps.
Claude vous parle de son pin parasol.
Oui.
Il est planté à plus de 2 mètres de la limite de la clôture. C'est une question de droit de Claude. Mon voisin a décidé de couper une racine sur son terrain, une racine de ce pin parasol. Est-ce qu'il en a le droit, son voisin ?
On fait très simple. Le voisin a parfaitement le droit de couper toutes les racines à l'aplomb de sa propriété sans autorisation, à condition que la coupe ne mette pas en péril la santé ou le devenir de l'arbre, sous peine, il peut être poursuivi. Il n'a pas le droit, par contre, d'intervenir sur les branches, car là, il faut l'accord du propriétaire de l'arbre. Donc, oui, il a le droit d'exiger la coupe de toutes les branches au-dessus du terrain, mais après l'accord du propriétaire. Et juste pour la petite anecdote, sachez que quand vous avez, par exemple, un voisin qui a un arbre fruitier, que la branche est au-dessus de votre clôture, le fruit à l'extrémité de la branche appartient au propriétaire de l'arbre.
Il n'a pas le droit de cueillir le fruit qui est dans notre jardin.
Sauf si le fruit tombe naturellement dans quelqu'un, il appartient
et si
au propriétaire
on se coule
du
la branche
terrain.
Qui se coule la branche.
Il faut qu'il tombe naturellement, mais s'il tombe sur votre terrain, le fruit devient le vôtre.
Paul vous demande, peut-on considérer les champignons comme l'amadouvier, comme un champignon lignivore ou un champignon symbiotique ?
Alors l'amadouvier, vous le connaissez, ce sont ces gros champignons qui se mettent sur le tronc des arbres et qui malheureusement dégradent considérablement la plante. Non, ce sont des champignons lignivores. Symbiotique, ça veut dire qu'ils seraient en harmonie avec la plante qu'ils ont besoin. L'orchide a besoin de champignons, par exemple, pour fleurir et se reproduire. Mm-hmm. Plus de champignons, plus d'orchidées. Eh bien, oui, aussi.
Les auditeurs n'ont pas vu le geste. C'est comme vous avec nous, nous sommes symbiotiques.
Mais tout à fait. Donc le problème de champignons, c'est qu'ils se développent sur la matière en décomposition. Il n'est donc pas la cause de la dégradation de l'arbre, mais par contre, une fois qu'il est en place, il accélère sa décomposition et va provoquer la mort. Mais malheureusement, je ne connais pas de traitement efficace pour éliminer un champignon sur le tronc d'un végétal. Ce champignon n'étant que la floraison d'un important réseau de mycélium contenu à l'intérieur du bois. Donc on ne peut rien faire.
On parle bien de ces champignons qu'on voit sur les troncs qui sont blancs, assez gras.
Tout à fait, qu'on appelle parfois langue de bœuf. Ce sont de très gros champignons. Et malheureusement, c'est le symptôme même d'un arbre qui doit être abattu car devenu dangereux.
Un dernier conseil de lecture ou une balade pour ce week-end ?
Un conseil de lecture, Pascal de Trazegni, aux orchidées. Elle a eu l'idée de créer une sorte d'orchidée grâce au talent de l'artiste Dior, 100 orchidées dessinées sublimement, sans texte, puisées dans la littérature, Simone de Beauvoir, Confucius, George Sand, Boris Vian, etc., etc. Très bel ouvrage publié chez Flammarion. Allez, il y a longtemps que je n'ai pas donné le prix.
Bah, allez-y, on l'attendait. 32 euros, c'est pas mal quand même, c'est une somme.
C'est un très joli livre.
Alain Baraton, jardinier en chef du Château de Versailles. Merci Alain et à samedi
à
prochain.
Samedi.
Et bon voyage à Namur.
Ah oui, merci.
Bien sûr, mardi, mais vous ne savez pas encore ce que vous allez y faire.
Jeudi.
Il vous reste 3 jours pour travailler.